Père, merci pour les paroles du Christ sur la croix. Merci pour toutes celles et tous ceux qui en ont vécu et qui nous les ont transmises. Merci surtout pour ta présence au monde, par la force de ton esprit, ce monde que tu n'as jamais oublié, que tu as toujours accompagné. Les anciens l'ont perçu et nous le percevons nous aussi chaque fois que, quand on ouvre le témoignage de l'Écriture, on réalise que quelque chose d'ineffable se passe. Quelque chose qui nous dépasse infiniment, mais qui nous fait vivre. Père, ouvre nos cœurs au témoignage de ta parole. Amen. Et je vous invite à entendre deux passages de deux livres qui ne sont pas très simples. Le premier, c'est l'Ecclésiaste ou le Coëlète. Je ne sais pas si vous lisez souvent le Coëlète ou l'Ecclésiaste, mais c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Puis l'autre passage, ce sera un passage de l'Apocalypse. Je vous ai gâté pour aujourd'hui. Donc, dans le Coëlète, ou l'Ecclésiaste, c'est comme vous voulez, si vous voulez parler latin ou hébreu, au chapitre 12, les versets 8 et suivants, c'est la fin du livre. « Vanité des vanités, a dit le Coëlète, tout est vanité. » Ce qui ajoute à la sagesse de Coëlète, c'est qu'il a encore enseigné la science au peuple. Il a pesé, examiné, ajusté un grand nombre de proverbes. Coëlète s'est appliqué à trouver des paroles plaisantes dont la teneur exacte est ici transcrite. Ce sont les paroles authentiques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs des recueils sont des jalons bien plantés. Tel est le don d'un berger unique. Garde-toi, mon fils, d'y ajouter, à multiplier les livres, il n'y a pas de limite, et à beaucoup étudier, le corps s'épuise. Fin du discours. Tout a été entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Dieu fera venir toute œuvre en jugement sur tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Et puis, alors donc, dans l'Apocalypse de Jean, il faut préciser de Jean parce que des Apocalypses, il y en a beaucoup. Et au chapitre 18, les versets 10 à 24. Ce n'est pas un passage très compliqué, c'est la description de Rome. Ô grande cité Babylone, cité puissante, il a suffi d'une heure pour que tu sois jugé. Et les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil, car nul n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, bois de senteur, objets d'ivoire, de bois précieux, de bronze, de fer ou de marbre, cannelle et amomme, parfum, myrrhe et encens, le vin et l'huile, la fleur de la farine de blé, les bœufs et les brebis, les chevaux et les chars, les esclaves et les captifs, le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi. Tout ce qui est raffinement et splendeur est perdu pour toi. Jamais plus on le retrouvera. Les marchands qu'elle avait enrichis de ce commerce se tiendront à distance par crainte de son tourment. Dans les pleurs et le deuil, ils diront « Malheur, malheur !» La grande cité est vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, étincelante d'or, de pierres précieuses et de perles. Il a suffi d'une heure pour dévaster tant de richesses. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent dans les parages, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance et s'écriaient en voyant la fumée et son embrasement, « Quelle cité est comparable à la grande cité ?» Ils se jetaient de la poussière sur la tête, poussaient des cris, de larmes et de deuil en disant, « Malheur, malheur, la grande cité dont l'opulence a enrichi tous ceux qui ont des vaisseaux sur la mer, il a suffi d'une heure pour qu'elle soit dévastée. » Réjouis-toi de sa ruine, ciel, et vous aussi, les saints, les apôtres, les prophètes, car Dieu, en la jugeant, vous a fait justice. Alors un ange puissant saisit une pierre comme une lourde meule et la précipita dans la mer en disant « Avec la même violence sera précipitée Babylone, la grande cité. On ne la retrouvera plus. Et les chants des joueurs de harpe et les musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, on ne l'entendra plus chez toi. » Aucun artisan d'aucun art ne se trouvera plus chez toi, et le bruit de la meule on ne l'entendra plus chez toi. La lumière de la lampe ne luira plus chez toi. La voix du jeune époux et sa compagne on ne l'entendra plus chez toi. parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que tes sortilèges ont séduit toutes les nations, et que chez toi on a trouvé le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, vous avez entendu ce récit de l'Apocalypse qui parle de Babylone, mais en fait c'est Rome qui est désignée à travers Babylone. Babylone a disparu depuis déjà pas mal de temps lorsque l'Apocalypse de Jean est écrite. Alors l'Apocalypse a été écrite au moment des premières persécutions générales couvrant l'ensemble de l'Empire romain sous Dioclétien. Il y avait eu quelques soucis à Rome, évidemment avant, dans les années 40 sous l'empereur Claude, où Suétone dit que les Juifs de Rome avaient vécu des échauffourées, donc ils les avaient expulsés de Rome. Donc on parle d'un certain Christos, donc on se demande si c'est pas là les premières frictions entre chrétiens et juifs. Dans tous les cas, il y a cet épisode, et puis il y a évidemment en 64 sous Néron, au moment de l'incendie de Rome, Néron va faire retomber la responsabilité de cet incendie sur les chrétiens. Et donc peut-être que là, Pierre ou Paul ont perdu la vie dans cette persécution qui était limitée à Rome. Mais lorsqu'on écrit l'Apocalypse sous Domitien, c'est l'ensemble de l'Empire romain qui est comme ça secoué par une vague d'antichristianisme, si je puis dire, et qui va durer un certain temps, puisque après Nerva et ses successeurs, après Domitien, ceux qu'on appelle les Antonins, qui étaient de très très grands empereurs, des philosophes, intelligents, etc., tout ce qu'on veut, qui ont porté l'Empire à son apogée, n'ont pas évité la persécution contre les chrétiens. Alors du coup, l'Apocalypse a été écrite en langage un peu codé, parfois assez clair, comme le passage que je vous ai lu, parfois un peu plus complexe, mais l'Apocalypse a été écrite pour donner courage à ceux qui sont sous la persécution, pour leur dire, bah, écoutez, vous êtes persécutés, mais vous inquiétez pas, Dieu vous a pas abandonné, et de toute manière, les persécuteurs, c'est-à-dire Rome, eh bien, vont disparaître. C'est un petit peu ça dont il s'agit. Alors c'est intéressant de voir dans le passage que je vous ai lu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a toute la vie quotidienne à Rome, en partie, hein, on va dire, hein, toutes les activités qu'il y a, hein, tout ce commerce international qu'il y a autour de la ville de l'Empire, qui à ce moment-là fait pas loin d'un million d'habitants, hein, faut pas le perdre de vue, hein, je veux dire, quand même, on a affaire à une très très grosse cité, et on a l'impression que de partout dans le monde, de toutes les provinces conquises et des pays étrangers même, arrivent à Rome des richesses incalculables, finalement. Il y a là une puissance, comme je vous le disais à l'instant, qui correspond à la domination maximale de Rome, puisque Trajan, quelques années après Domitien, va conquérir la Dacie, c'est-à-dire la Roumanie. Je veux dire, eh bien, il y a là une puissance extraordinaire d'un empire mondial qui va finalement de l'Irak actuel jusqu'à l'Écosse. Hein. Je veux dire, avec tout le bassin méditerranéen sous sa domination. Et Rome apparaît comme une grande prostituée. C'est ce qu'elle est, comme ça qu'elle est décrite dans d'autres passages. Elle est décrite comme violente, vulgaire aussi, dire à la manière des nouveaux riches parfois. Dire. Il y a là un orgueil qui s'étale et qui choque les premiers chrétiens. Qui choque parce que cet orgueil est le signe finalement d'un paganisme très très fort. D'ailleurs, les Romains sont païens du reste. Assez ouverts, ils seraient assez tolérants, mais ils sont quand même païens. Comment accepter ces gens bizarres qu'on appelle les chrétiens qui ne veulent pas entrer dans leur manière de voir finalement? Alors Rome du coup veut les éliminer ou les convertir. Pourtant, Rome est fragile. Au sommet de sa puissance, Rome porte en elle les germes de sa propre destruction. Rome sera minée par l'intérieur, par ses propres divisions, par son gigantisme, et sera minée de l'extérieur par les guerres incessantes qu'il y a aux frontières. La légion romaine est là en guerre perpétuelle avec une violence incroyable, puisqu'elle a pratiqué le génocide, il ne faut pas l'oublier, à grande échelle. C'est des choses qu'on passe sous silence en général, mais pourtant ça fait partie de la réalité. Des villes entières sont passés soit au fil de l'épée, ou alors les hommes sont tous mutilés, on leur coupe les mains. Ça se passe encore en Afrique, hélas. Alors c'est intéressant, Rome disparaîtra aussi, là, pendant un peu de temps, mais il faut être un peu comme Héraclite et s'asseoir au bord du fleuve. Et Rome disparaîtra comme Babylone a disparu. C'est pour ça que Babylone la Grande, qui au 7e, 6e siècle, atteignit jusqu'à 300 000 habitants avec ses jardins suspendus, sa splendeur, avec Nabucodonosor, le grand roi qui avait conquis lui aussi un empire mondial, eh bien, Babylone avait disparu, malgré les déportations et les massacres. Alors aujourd'hui, je me suis dit, il y a peut-être quelques comparaisons à faire. L'impérialisme continue. Il continue malheureusement. Les grandes puissances sont là pour essayer de se partager le monde, véritablement. Vous savez qu'il y a une guerre mondiale à l'heure actuelle qui se passe et qui est sans merci. C'est la guerre cybernétique. Véritablement. Sur les réseaux, sur la toile, les grandes puissances se livrent un combat sans merci, véritablement. Essayant de se manipuler, de se détruire les unes les autres. Dire la guerre nucléaire a succédé la menace nucléaire, a succédé une autre forme de guerre, finalement, qui n'en est pas moins violente, évidemment, parce que lorsqu'on fait sauter un État, un pays, ça se solde par des souffrances du type chômage, destruction ou autre. L'impérialisme existe toujours. Il n'y a qu'à voir les discours de nos grands chefs d'État. Finalement, et l'égoïsme qu'ils affichent. La richesse aussi, elle est là. Jamais le monde n'a été aussi riche. C'est vrai. Jamais le mépris n'a disparu. Mépris des hommes. Et combien sont-ils ceux qui vivent avec moins de 1 dollar ou 1 euro par jour? Combien sont-ils ceux qui sont victimes d'injustices notoires, d'exploitation, véritablement? Soumis à la violence aussi. Dans nos pays, même s'il y a parfois des manifestations, comme ça arrive, ce que vous savez, on est dans un pays relativement calme, alors que bien des pays n'arrivent pas à sortir de la guerre civile, dont on ne parle jamais, ou si peu. Il y a aussi l'hypocrisie. L'hypocrisie qui... Eh bien, là aussi, attesté partout. On veut bien aider, mais jusqu'où voulons-nous aider? Et puis on veut bien aider, surtout si c'est les autres qui aident. C'est quelque chose que nous connaissons. Le problème, c'est que si les Romains étaient ignorants de bien des choses, nous savons. Nous sommes au courant. Et c'est quand même là où il y a une grosse différence. C'est-à-dire, il y a une grosse différence. On peut pardonner aux Romains leur ignorance. Surtout celle de Domitien, où il se prenait pour Dieu le Père sur terre, bon, ce qui a été l'occasion de la première persécution, et il pensait que sa femme était une déesse. Bon, c'est comme ça. Mais nous savons. Nous savons depuis les camps de concentration, la bombe atomique, le dérèglement climatique, et nous savons par les informations qui finissent par nous arriver, tout ce qui se passe et ce que je viens de dénoncer. Et c'est là où nous sommes peut-être coupables de persécution, peut-être pas envers des chrétiens, mais envers les plus pauvres du monde, les plus faibles. La sagesse, voyez-vous, le Qohélète, ce qui est racine, les proverbes, ce qu'on appelle les livres de la sagesse, ils savent très bien tout ça. Il n'y a pas grand-chose sous le soleil, vous savez, vanité des vanités, tout est vapeur, tout n'a pas de consistance. Hein, véritablement, tout est buée. Il n'y a rien de nouveau qui se passe sous le soleil, dit les Qohélète aussi dans le passage d'entrée de ce livre. C'est vrai que l'agitation des hommes, elle a toujours existé. Les richesses accumulées et inutiles aussi. Jésus le dit aux riches insensés qui s'est accumulé une fortune pour mourir. Les renommées aussi passent, inévitablement. Que restera-t-il finalement des gens qui sont célèbres aujourd'hui? Vous savez qui est le premier auteur du numéro 1 du livre de poche? un grand auteur pour que ce soit le numéro 1 du livre de poche. Hein? Je vous mets au défi de le trouver. Ben, je vous le dirai tout à l'heure en sortant. Voilà, je vais vous le dire tout de suite, c'est Henri Bordeaux. Hein? Pas si vous avez lu Henri Bordeaux. Ça se lit très bien. Mais enfin bon, voilà. Vous voyez, la renommée passe. Hein, même si on a la une des journaux hein, pour son talent d'écrivain, eh bien ça ne dure pas longtemps. Tout passe. Alors pourquoi s'agiter? Pourquoi détruire les autres finalement? Pourquoi être injuste, véritablement? De nous, il ne restera rien, quasiment rien, je veux dire. Imaginez dans 50 ans ce qu'on va dire de chacun d'entre nous. Hein? Qui va subsister? De qui va-t-on parler dans 50 ans ou 60 ans? Hein? D'aucun, vraisemblablement. Même pas du pasteur. Je peux vous dire que les pasteurs sont quasiment oubliés 7 ou 8 ans après leur passage, à peu près. C'est en partie, ça passe très très vite. Pour des tas de raisons, parce que les gens ont des tas de choses à faire, parce que les communautés tournent, il y a des nouveaux, il y en a qui partent, et ainsi de suite. J'ai fait l'expérience moi-même au synode il y a jusqu'à 3-4 ans, je connaissais tout le monde, mais au dernier synode, il y avait la moitié du synode que je ne connaissais pas. Parce que les gens, il y avait des nouveaux qui arrivaient, des nouveaux conseillers, des nouveaux pasteurs, et ainsi de suite. Ça tourne. Évidemment. Alors, dans quelques siècles, qu'est-ce qui va rester de nous? Imaginez. Dans 50 ans, on peut penser que le bâtiment sera encore debout. Mais dans quelques siècles, essayez d'imaginer ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on s'agite bêtement comme ça? Pourquoi est-ce qu'on accumule de la richesse bien au-delà de ce dont nous avons besoin pour nous et même pour notre descendance? Parce qu'effectivement, on peut dire, comme disait Mendès France, gouverner, c'est prévoir. Hein, donc il faut prévoir un petit peu l'avenir, effectivement. Bien sûr, il ne faut pas tenter le diable, comme dirait l'autre. Et puis, on a des enfants, il faudrait bien qu'ils soient un peu à l'abri, évidemment. Mais au-delà de ces besoins, une richesse accumulée est complètement inutile, finalement. Ceci, pourquoi? Oh, il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons économiques aussi, la peur de manquer, la peur de ne pas être connu, de ne pas être aimé aussi. Il y a aussi le sentiment que notre culture est une bonne culture, qu'il y a Henri Bordeaux et tant d'autres écrivains assez extraordinaires, il faut dire les choses comme elles sont, qu'il y a dans nos cultures une manière de s'exprimer tout à fait merveilleuse. Il y a je ne sais pas combien de mots dans la langue française, mais c'est de l'ordre de 5 ou 600 000 mots, je veux dire, pour exprimer nos pensées, pour bâtir quelque chose, et ainsi de suite. Oui, on peut toujours exprimer comme cela des raisons pour justifier l'injustifiable. Il ne restera rien de tout ça. Et la sagesse, regarde ce spectacle du monde qui s'agite comme nous regardons les fourmilières, avec ces fourmis qui vont dans tous les sens, et qui inlassablement refont le même geste, un peu à la manière de Sisyphe, finalement. La sagesse regarde ça d'un œil un petit peu amusé, mais surtout affligé. Quand on relit le Coëlette en son ensemble, c'est un petit peu le sentiment qu'on a. Quelque chose de désabusé, peut-être. Un petit goût amer qui reste. Même si on discerne dans tout ce qu'il y a dans le Coëlette, quelque chose qui est vrai. La sagesse, voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas qu'une simple observation. Elle n'est pas une contemplation ou un recul. Vous savez, on dit les sages prennent du recul, etc. Peut-être. Elle n'est pas non plus que de la prière. S'enfermer de la prière, c'est bien, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que la sagesse, dans le passage que je viens de vous lire, tout à fait à la fin, lorsqu'elle met le point final, le passage qui précède le passage que je vous ai lu, c'est un poème extraordinaire sur la vieillesse et la mort. Vous savez, lorsqu'il y a le fil d'argent qui se détache, la poulie qui se rouille, etc., au puits, et ainsi de suite, lorsque la jarre se casse, et ainsi de suite, il y a un passage tout à fait fabuleux et poétique. La sagesse dit ceci, elle est comme un aiguillon, la sagesse. Elle est comme un aiguillon. Oui, contempler, regarder le monde, prier, tout ça c'est constitutif de la sagesse pour pouvoir réfléchir. pouvoir évaluer, voir où se trouvent les choses qui sont essentielles, qui sont intéressantes, qui ont de la valeur, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui est là pour nous titiller, qui est là pour nous déranger, véritablement, pour nous remettre en cause, hein, nous arracher, comme on doit arracher un coquillage qui est accroché à son rocher, finalement. Elle est un aiguillon. L'aiguillon, c'est fait pour piquer les bœufs pour qu'ils avancent. L'aiguillon, c'est fait pour ça. Ces bœufs dont je parlais tout à l'heure avec sympathie, mais, mais c'est ça. Elle est là pour nous mettre en route, je dirais, pour nous faire bouger. Mais pas n'importe comment, parce qu'il est dit dans ce passage qu'il y a de la stabilité, qu'il y a de la sûreté aussi. Et ça aussi, c'est intéressant. Bouger, agir, certes, mais pas n'importe comment, dans des limites qui sont imparties, véritablement pour éviter de déraper. Et le Kohelet dit ça, c'est un don de Dieu. Heureux, celui, celle, ceux qui peuvent justement avoir ce recul, cette évaluation et cette possibilité d'action après avoir eu un moment de ressourcement, comme on dit, véritablement. Je ne crois pas qu'il soit très malin d'aller chercher de la sagesse en Inde et de s'enfermer pendant 15 jours dans un ashram, si c'est pour y rester et pour revenir en étant content. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'il serait plus intéressant d'aller lire un passage de la Bible tranquillement chez soi et de mettre le prix du voyage au service des... Ça me semblerait un petit peu mieux. Mais enfin bon, je suis peut-être de mauvaise humeur. Hein, faut pas... enfin, ça m'arrive parfois. Oui, c'est un don de Dieu. Je crois que c'est un don de Dieu de percevoir ce qui fait vivre, évidemment, ce qui est l'essentiel pour pouvoir aller vers cet essentiel. Cet essentiel qui est Dieu. Comment agir? Eh bien, c'est en craignant Dieu, dit le Kohelet, c'est-à-dire en entendant ses commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et puis tu les mettras en pratique. Par exemple, en faisant attention que l'immigré est là à tes portes, en faisant attention qu'il y a des pauvres dans tes limites, des pauvres qui ont besoin qu'on laisse quelque chose à glaner dans le champ pour qu'ils puissent vivre eux aussi et avoir leur place dans la société, finalement. Comment agir, c'est ça. C'est être en Dieu, suivre ses commandements. Ses commandements qui sont des commandements de liberté, finalement, et de justice. Liberté, quand on arrive à se libérer comme cela du matériel pour aller à l'essentiel, le superflu, qui parfois est peut-être fort sympathique, je ne vais pas dire le contraire, mais quand il devient envahissant, il devient une prison terrible. Arriver à se libérer de tout ça, se libérer de la peur du jugement de Dieu, pour sentir l'aiguillon qui est là, qui nous pique, et qui nous permet d'aller vers plus de justice. C'est la loi qui est là, c'est la loi et la communauté. Ils sont là, ces deux ensembles, pour nous dire, ben, il faut rester en Dieu. Accueillir, comme c'est l'occasion, en ce temps de l'Avent, accueillir Dieu qui se révèle à Noël. Dieu qui se révèle à Noël, c'est Jésus. Voyez, c'est vraiment le contraire de cette Rome de l'Apocalypse, de cette épouvantable prostituée, dire qui arrive avec sa richesse qu'elle étale et tout ça, avec ses injustices. C'est le Jésus de Noël, c'est un enfant qui est là. C'est celui qui est allé vers les estropiés pour les faire marcher, pour que les aveugles puissent voir, les sourds entendent. C'est celui qui est allé laver les pieds de ses disciples, finalement. Et c'est celui qui est mort sur la croix, avec le pardon à la clé, qui est vraiment le noyau véritablement de l'évangile, de la révélation de Dieu, un amour incroyable qui arrive à pardonner même l'impardonnable. C'est ça, être dans l'action de Dieu. C'est vivre cela autant qu'on puisse le faire, dans la liberté, dans la certitude du salut, dans la fraternité du salut. Alors, on ne va pas bâtir un empire, certainement pas. Puisque les empires, ils passent, ils se dissolvent dans l'histoire. Mais nous sommes appelés à bâtir le royaume, véritablement. Le royaume où s'exprime véritablement la dignité de l'homme, tel que Jésus-Christ lui-même nous l'a annoncé.